Dieu est-il écolo ? Une émission produite par Radio FM+, présentée par Deli Fraisse, Stéphane Chenery et Luc-Olivier Bossé.
Bonjour, bonjour chers auditeurs de Radio FM+. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission « Dieu est-il écolo ?» Je crois que c'est le 8e épisode, déjà. Voilà, donc nous nous retrouvons avec Deli Fraisse et Luc-Olivier Bossé.
Bonjour à tous.
Bonjour Deli.
Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour Deli.
Bonjour. Voilà, donc nous reprenions chaque mois autour d'un chapitre du livre de Didier Fievé qui s'appelle « Bible et écologie ». Paru aux éditions Olivetan. Donc nous avons vu différents chapitres sur les grands thèmes, les grands mythes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons peut-être nous en écarter un petit peu. Donc il y a un chapitre 8, qui concerne donc l'apôtre Paul. Et donc on l'a étudié bien sûr attentivement, on l'a analysé, et puis on a voulu peut-être creuser un des points qu'il développait autour de la lettre toujours de Paul, la lettre aux Romains, le chapitre 8.
Et surtout qu'il y a une expression dans cette lettre de l'apôtre Paul à la communauté de Rome, il y a une expression qui a retenu notre attention, c'est « la création tout entière gémit et souffre ». Et au fond, par rapport à tout notre questionnement écologique, par rapport à notre actualité, cette expression, elle a teinté, quoi. On s'y est arrêté parce qu'on a senti qu'elle nous rejoignait aussi pour mettre en mots ce que nous percevons autour de nous.
Déjà, elle est pessimiste, cette expression. Enfin, elle est radicalement pessimiste et elle fait écho à certaines tendances qu'on observe de pessimisme, d'éco-anxiété. Voilà, on va essayer de voir peut-être...
Oui, surtout qu'on entend comme si c'était toute la création qui n'était que gémissement et larmes. La création tout entière gémit et souffre.
Voilà, c'est très fort.
Il y a des pollutions, disparition des espèces, inondations, sécheresses, canicules, incendies. Voilà, donc effectivement, la création gémit et souffre. Mais bon, on va essayer de voir comment tout cela débouche sur une forme d'espérance. On va essayer de voir
alors,
ça.
Peut-être avant de parler d'espérance, je pense qu'il nous faut prendre acte aussi et écouter ce que nous ressentons par rapport à notre actualité. Parce que pour faire face à tous ces défis qui sont redoutables, qui nous semblent immenses, le réchauffement climatique, qui peut à lui seul inverser la tendance, c'est pas possible. Quand on voit la disparition des nombreuses espèces, les scientifiques qui nous alertent là-dessus, quand on voit la pollution qui se développe avec ce nouveau continent dont on parle sur les océans, là, qui est regroupé par des milliers de déchets plastiques, on aimerait tellement avoir des baguettes magiques qui nous permettent d'inventer des solutions miracles. Hop.
Mais non. Nous
c'est qu'on n'a pas de baguettes magiques. Et pourtant, on n'a pas rien. Il y a des initiatives qui fleurissent ici et là, il y a des manifestations, il y a des mouvements, il y a chaque personne qui s'y met. Mais simplement, des fois, on a l'impression que tout ce qui est déjà fait aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour retourner la tendance.
Déjà quand même, ce qui me semble intéressant de préciser pour donner une petite note d'optimisme dès le départ, c'est que déjà, il y a une prise de conscience. Il y a 30 ans, cette prise de conscience n'existait pas, à part quelques scientifiques, quelques personnes. Donc déjà, c'est un discours qu'on entend, donc ce ne sont pas les discours qui changent les choses, mais déjà, il y a cette prise de conscience, et ça me paraît un point de départ intéressant.
Tout à fait, mais moi ce que j'entends aussi, c'est que cette prise de conscience, pour certains, elle ne suffit pas, parce que...
C'est clair.
On voit qu'il n'y a pas une... on n'a pas l'impression d'aujourd'hui être dans une dynamique qui nous permet d'aller...
De changement,
qui nous permet de voir l'avenir avec espérance. Cette prise de conscience, elle n'est pas à négliger, mais on sent que ça ne suffit pas. Et du coup, ça peut aussi démobiliser les personnes, de dire, il y a eu de la prise de conscience, il y a déjà plein de choses qui se font, mais ça ne suffit pas. Donc, on a envie que ça bouge, mais on n'est pas très convaincu parce qu'au fond, nous, on se dit, c'est trop haut, la barre est trop haute, la partie est peut-être même déjà perdue. Et du coup, ça, Ça peut aussi provoquer, et là je pense à ces jeunes qui manifestent, je pense à mon neveu, je pense aussi à mes filles qui manifestent et qui expriment plus de la colère face à cette attitude de dire ouais, bon, la prise de conscience ne suffit pas. Et qui disent, mais il faut absolument que ça bouge et qui ont envie d'interpeller toutes les personnes en responsabilité, mais aussi tout un chacun pour que ça bouge. Quand on voit tous ces actes qui sont faits dans les musées aujourd'hui, avec des personnes qui se collent aux œuvres d'art, ou des personnes même des fois qui se collent sur la route avec la main, ils veulent interpeller. Et on sent de la colère, ça bouillonne, ils ont envie que ça bouge vraiment. Donc c'est là l'envie de ne pas baisser les bras, de ne pas être face à un liste, d'essayer de quelque chose. Donc effectivement, là, on sent la création qui gémit et qui souffre parce qu'elle aimerait qu'il y ait autre chose qui puisse advenir. Mais
moi, cette colère, elle m'interroge quand même. Si elle peut... on a envie de dire que c'est une juste colère. Mais est-ce qu'elle ne se trompe pas de destinataire? Parce que c'est nous tous qui sommes concernés. Peut-être, effectivement, nos politiques au premier plan. Il y a forcément, je crois qu'eux ont des décisions à prendre. Mais nous sommes tous concernés, nous sommes en colère. J'ai l'impression aussi un peu... Moi, personnellement, j'ai l'impression d'être en colère un peu contre moi-même, quoi. Quand j'essaye de voir, moi, dans ma vie, dans mon empreinte écologique, je trouve que je ne suis pas satisfaite. Donc... Oui, juste colère, mais je trouve que parfois, elle ne nous implique pas assez, nous.
Oui.
En ne questionnant que les politiques, c'est très important, mais il ne faut pas que ça nous fasse faire l'économie à nous d'en être aussi le récepteur de cette colère-là.
Oui.
Que faisons-nous, quoi ?
Voilà, et concrètement,
voilà.
Que changeons-nous dans notre quotidien, hein ?
Voilà.
Ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a cette... C'est peut-être aussi un des fruits de ces expressions autour de nous,
oui.
Qui nous interpellent et qui nous poussent à aller un peu plus loin. Mais on voit, hein, par rapport à tous ces défis aujourd'hui, dépasser le haussement d'épaules, dépasser la tentation de baisser les bras ou de simplement lever le poing pour se mettre en route. Et je crois que c'est ça la dynamique d'espérance. C'est-à-dire que l'espérance, c'est quelque chose qui nous rend acteurs et on sait qu'on n'est peut-être pas à enfanter tout de suite d'une solution, mais on tend, on bouge, on se remet en question. Et au fond, tout l'enjeu, je crois qu'aujourd'hui, c'est comment changer en étant dans une dynamique et en n'étant pas simplement dans une confrontation, dans une opposition ou dans une fuite, dans un évitement.
Bien, donc on voit bien la métaphore donc, de la création qui gémit et qui souffre. Hein, mais comment des textes comme ceux-ci qui ont été écrits il y a 2000 ans... par des auteurs qui n'avaient aucune connaissance des défis de notre temps, comment on peut les faire nôtres, à quoi ça sert de lire ces métaphores, ces images que Paul nous donne par exemple sur ça.
Oui, c'est important cette question, parce qu'on pourrait se dire que notre émission n'a qu'un but, c'est de mobiliser les uns les autres, de s'engager concrètement, d'être actif à tous les niveaux et tout. Or, en fait, ce que nous proposons là, c'est de relire des passages des Écritures. Et à quoi ça sert, quoi, hein ? On se dit, par rapport à l'urgence, c'est peut-être perdre du temps précieux. Mais je crois au contraire que ça a un sens fondamental. Alors, d'abord, soyons clairs, hein. C'est vrai que l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, il parle de création entière qui gémit et qui souffre. Pour lui, ce n'était pas sa priorité quand il écrivait ça, la pollution des océans, le réchauffement climatique. C'est tout à fait normal parce que Paul, il était dans un autre monde que le nôtre. Il était dans ce monde-là, pas question de déforestation, de surexploitation des ressources, de jours de dépassement. Bon, donc on pourrait se dire effectivement à quoi ça sert, pourquoi encore lire aujourd'hui les Écritures bibliques ? Eh bien, tout simplement parce que Paul, mais comme d'autres écrivains bibliques, mais là aujourd'hui c'est Paul qui nous intéresse, ils ont vécu dans un autre monde, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont eu aucun grand défi à affronter. Eux aussi, ils ont eu des combats face auxquels ils ont eu l'impression de n'avoir que des moyens dérisoires pour faire face. Et en fait, si nous lisons la Bible, si nous méditons ce que Paul a écrit, c'est pour écouter comment lui et d'autres chrétiens ont abordé leurs défis avec un état d'esprit particulier. Quel état d'esprit ? Et c'est ça qui nous semble intéressant. C'est de retrouver cet état d'esprit parce que quand on voit face aux immenses défis qui étaient les siens, il a fait preuve d'indignation, mais il n'a pas fait preuve de colère ravageuse, destructrice. Mmh. Paul, il a fait preuve de lucidité, d'acceptation, mais pas de fatalisme et de résignation. Mmh. Et en fait, je crois qu'il a fait preuve d'espérance. Donc, quand on parle d'espérance aujourd'hui, je pense que c'est un état d'esprit, une manière d'aborder les situations. Et c'est pour cultiver cet état d'esprit que je vous propose qu'on s'arrête auprès de ce passage-là de la lettre aux Romains, chapitre 8, parce que je pense que ça peut nous aider à aborder nos défis d'aujourd'hui avec comme énergie, comme carburant, non pas le fatalisme, non pas la colère, mais une attitude d'espérance.
Bien, ben d'accord. Alors, lisons ce texte, hein, ça nous mettra donc du concret, puis on partira essayer de voir justement où se niche l'espérance dans tout ça.
J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons, en effet, que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous, car ce n'est pas seulement la création qui souffre. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement, en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leurs souffrances. Passage difficile, je trouve, à comprendre. Hein. C'est très complexe. Et donc, toi, où vois-tu, toi, l'espérance dans ce passage biblique ?
Alors, je veux bien essayer de dire quelque chose, mais après, peut-être ce serait aussi intéressant de voir si vous entendez quelque chose de l'espérance, oui. Ce passage. Moi, ce que je vois, c'est que Paul, pour décrire le monde qui l'entoure, il utilise, en gros, deux expressions symboliques, deux métaphores. La première, c'est celle de l'emprisonnement. Il dit « la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien ». Et c'est une façon d'interpréter le monde qui, à mon avis, peut aussi nous être utile pour nous aujourd'hui. C'est de rappeler que si la création gémit, si la création souffre, c'est parce qu'elle est enfermée dans des logiques qui ne sont pas des logiques constructives, mais qui débouchent sur de la futilité, sur de l'évanescence. Et alors, c'est les logiques qu'aujourd'hui, s'il fallait actualiser, pour Paul, ce n'était pas ça. Hein. C'était d'autres logiques. Hein. Mais pour nous, si on devait actualiser, on pourrait dire, mais quelles sont les logiques qui font que la création est sous le pouvoir de force qui ne mène à rien ? Ça peut être la logique de surconsommation, ça peut être la logique de surexploitation. Où tout d'un coup on prend conscience que où est-ce que ça nous mène ? Eh ben, ça nous mène à rien, au sens que ça, c'est pas constructif, ça grille les ressources que nous avons, ça fait que nous sommes en train de détruire le milieu qui nous permet de vivre, de nous épanouir, de devenir les créatures que nous sommes. En tant qu'humains, nous sommes les animaux qui avons le plus besoin de temps pour devenir matures. Hein. Parmi toutes les autres espèces, les animaux deviennent beaucoup plus rapidement adultes que nous. Et donc, on a besoin d'un contexte qui nous permette d'évoluer. Que voyons-nous ? C'est que ce contexte, cet espace vital, eh ben, nous avons utilisé des... Et au bout d'un moment, nous avons utilisé les ressources et tout. Et puis au bout d'un moment, on réalise que notre utilisation, eh bien, elle est prise dans une logique qui, au lieu de permettre de préserver et de maintenir, voire même d'enrichir ce milieu, eh bien, de ressources qui ne mènent à rien. C'est-à-dire que on se pose la question aujourd'hui, comment faire pour continuer à pouvoir se développer dans ce monde-là?
Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée quand j'ai lu ce texte et qui m'a amenée à réfléchir. C'est quand il est dit que bon, la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Dans un premier temps, je me suis sentie visée en tant qu'être humain. Et
oui, on ne sait pas d'ailleurs si c'est l'homme ou si c'est, Dieu.
Si hein, c'est difficile.
Il y a une ambiguïté là.
Alors, il y a une explication qui, moi, par rapport à ça, arrive à me faire un peu comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je pense qu'il y a il s'est mis en place des fonctionnements dans la création, dans tout ce qu'elle a, hein, avec les êtres humains, etc. Il s'est mis en place des fonctionnements qui ont entraîné, comme dans tout système, des dysfonctionnements qui se sont sclérosés et à partir de là qui en ont engendré d'autres pour lesquels nous n'avons rien fait, parce que ce qui caractérise quand même les êtres vivants, animaux, ou être humain, c'est quand même la résistance au changement, et qu'on en est arrivé à des systèmes qui se sont complètement enquistés dans une espèce de sclérose dans laquelle ils se sont enfermés. Je crois que là, l'analyse systémique me donne une explication qui, moi, me donne du sens.
Oui.
Et m'évite de tomber dans une espèce de raccourci qui serait, c'est notre faute, quoi.
Mais oui.
C'est aussi notre faute.
Oui.
Mais il y a aussi cette affaire de dysfonctionnement qui se met en place et de systèmes comme ça qui s'installent et puis on ne fait rien pour les changer, on s'enquiste là-dedans et ça continue et ça engendre encore des dysfonctionnements.
Ce qui est intéressant dans ce que tu pointes, hein, à cause de celui qu'il y a mise, on sent qu'il y a une indétermination.
Oui.
Comme tu le disais, on ne sait pas qui est ce celui. Donc du coup, je pense que Paul, là, il est vraiment porteur aussi de tout un regard sur la création qui vient de plus loin que lui, qui vient de sa culture juive, qui vient de sa, aussi des... On trouve ça ailleurs dans les Écritures bibliques. Paul, il est porteur d'une vision qui vise à éviter deux extrêmes. Le premier extrême, c'est de dire la création, en tant que telle, elle est pourrie. C'est quelque chose qui est vraiment défaillant. Et donc, c'est la création qui produit, en fait, ce néant. Ce qui mène à rien, ça ça vient d'elle, c'est de sa faute. Et donc, une vision, on va dire, pessimiste, une vision dépréciative du créé. Donc ça, c'est l'extrême que Paul ne mentionne pas, puisqu'il mentionne non pas la création qui a choisi ou qui va nécessairement vers des forces qui mènent à rien, mais qui est soumise à ça, donc qui est elle-même enfermée dans ça, par celui, donc par une instance qui est en vis-à-vis d'elle, qui n'est pas elle. Donc ça, c'est le premier extrême où il distingue les deux choses. Et ce faisant, on pourrait se dire, bon, c'est bien, Paul, à ce moment-là, il est manichéen. Vous savez, manichéen, ça veut dire il y a le Dieu bon, le Dieu créateur, et puis il y a le mal, qui est aussi représenté comme une instance divine. Et donc, il y a une confrontation, il y a lutte entre les deux divinités, et le débat, c'est de savoir qui va gagner à la fin. Et ça, il y a des mythologies qui le mettent très très bien en scène, qui en font toute une dramaturgie et tout. Bon, et bien là, ce n'est pas le cas. Puisqu'il n'est pas en train d'identifier celui qu'il y a mise en le déterminant comme étant une divinité qui viendrait, au fond, s'opposer à Dieu. On ne sait pas. Et quand tu disais « ça m'interroge parce que c'est aussi un peu moi », effectivement, on ne sait pas si c'est un Dieu, une divinité, un démiurge qui serait inférieur à Dieu, ou celui ou celle, c'est-à-dire finalement nous tous. Quoi, hein. Et cette indétermination, je pense qu'elle est aussi révélatrice de... cette lecture qu'on peut faire de plusieurs autres textes bibliques qui ne cherchent pas à trop identifier, à trop nommer le responsable de tout ce pataquès dans lequel nous sommes. Le responsable, eh bien, on reste indéterminé. Et on ne veut pas lui donner trop de place parce que ce serait de lui donner aussi trop d'importance. Mais en disant ça, c'est-à-dire que c'est diffus. Et ça veut dire qu'on peut devenir, nous, des instances, on peut être tout d'un coup, par moment, sans qu'on le veuille, des personnes qui mettent la création sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien.
Ça nous implique, en fait.
Mais ça peut être aussi, comme on l'a vu aussi après la Deuxième Guerre mondiale, ça peut être aussi tout un système qui se met en place et qui aboutit à ça. C'est pas la responsabilité d'une personne ou de moi, de toi, mais ça peut être aussi tout d'un coup collectivement qu'il y a une responsabilité. Mmh. Et donc après, on appelle ça aussi influencé par toute une réflexion qui vient à l'origine de Marx et tout, c'est les péchés structurels ou les défaillances structurelles. Donc on voit que là, ça nous invite, cette indétermination, je pense qu'elle nous invite à réfléchir, à se questionner, à ne pas trop figer les choses pour pouvoir, comme si tout d'un coup on arriverait à nommer le problème, et puis hop, on l'a saisi, on a l'impression qu'on le maîtrise, et puis en fait on sera déçu parce qu'on aura vu que ça ne nous aura pas empêché qu'il y a toujours un problème qui continue. Donc de rester ouvert, de rester indéterminé, de rester dans la vigilance nous permet aussi de mieux aborder ces puissances, on va dire, qui finalement ne mènent à rien. Ça nous aide à rester sur le qui-vive.
Voilà, dans la première notion que tu as abordée, la notion d'emprisonnement, hein, donc la première métaphore que tu citais tout à l'heure, c'était celle de l'emprisonnement. C'est vrai que Paul, quand il parle d'emprisonnement, il ne met pas d'un côté la nature qui serait enfermée et de l'autre l'humain qui serait libre et qui aurait un esprit pour atteindre cette liberté. Il lie la vanité de la création et le péché de l'homme. Et il me semble, hein, enfin c'est ce qu'on avait quand on avait étudié ce texte, et on avait trouvé que ça, et c'est d'ailleurs je crois ce que dit Didier Févé, hein, d'une certaine manière, ça rompt avec une vision dualiste qui sépare création d'un côté et humanité de l'autre, hein, qui a été portée par différents philosophes du siècle des Lumières, hein, donc qui voilà. Voilà, donc c'est Paul affirme que la création est futile et vaine.
Oui, alors...
Tu peux l'expliquer, ça.
Mais en fait, ce que je voudrais pointer, moi, c'est que Paul, il dit, c'est la création tout entière qui gémit et qui souffre. Et puis, c'est, quand il parle de création, il englobe l'humain, la nature. En fait, il englobe tout ce qui est créé. Là où, des fois, dans certaines approches, on distingue la nature et on distingue la liberté. Et que la nature, c'est le lieu de la causalité. Donc tout est déterminé. Il faut comprendre les lois de la nature. Et à ce moment-là, on arrive à la domestiquer. Mais on y est aussi un peu soumis. Donc comprendre, c'est vraiment une urgence pour pouvoir non pas être trop servile vis-à-vis, trop dépendant de cette nature, mais d'arriver un peu à prendre le dessus. Et puis vis-à-vis de ça, c'est la notion de liberté, c'est de dire il y a l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, c'est le domaine qui est, on va dire, incarné en l'humain. Dans les autres espèces, animales et tout, il y a pas tant d'esprit que dans l'être humain est un animal conscient de lui-même et qu'en fait cette conscience lui permet de transcender des fois les conditions naturelles. Il permet de prendre distance par rapport à son milieu naturel pour s'adapter, pour réagir. Et donc en fait il faut éveiller cet esprit, il faut le muscler, il faut le rendre mature pour que justement les lois de la nature ne soient plus vécues comme une prison, mais comme un lieu qui nous permet de nous appuyer et puis en l'exploitant de dépasser ça, pour atteindre une nouvelle condition, pour continuer notre progression, on parlait d'évolution, pour qu'on puisse s'extraire finalement de cette nature. Et donc là, il y a un dualisme qui s'est installé. Et la modernité a été un peu porteuse de ce dualisme-là, entre nature et liberté. Donc, on sent bien aussi tout le potentiel d'un tel regard, mais il y a certains philosophes en accentuant cette dichotomie entre nature et liberté, disaient finalement la nature, elle n'est là que pour être exploitée.
C'est un outil.
C'est un outil, mais parce que la nature aussi, à ce moment-là, elle était vue comme une sorte de puissance qui était profondément insécurisante parfois, parce qu'il pouvait se passer plein de choses. Et donc, il fallait absolument la maîtriser. Et puis, il fallait en extraire tout ce qu'on pourrait, tout ce qu'on en peut pour pouvoir se développer. Donc, exploiter, et donc ce qui peut déboucher des fois sur une surexploitation, parce qu'il y a une vision un peu dominante. Il faut absolument acquérir la domination sur cette nature. Eh bien là, par rapport à ça, ce que je trouve intéressant dans le texte que nous méditons, là, chez l'apôtre Paul, c'est quand il dit que la création sera libérée... Attendez, c'était quoi ? Elle est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien. Il ne fait pas une dichotomie. Il ne dit pas, finalement, la nature est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien. Par contre, l'esprit, lui, il a réussi à s'en échapper, heureusement. Il ne fait pas de dichotomie. Tout le monde est embarqué dans cette histoire. Et donc, l'homme n'est pas en opposition à la nature, puisqu'il est aussi une créature. Donc, c'est toute la création. Donc, il nous invite à dépasser cette distinction entre nature et liberté en disant, tout est imbriqué au point que on peut être tous soumis au pouvoir de force qui ne mène à rien. Donc ça, c'est une première chose. Hein. On pourrait dire, mais c'est un constat d'autant plus pessimiste, hein, parce que où est l'espérance, alors, si c'est le cas ?
Bien, donc ça, c'était pour la première métaphore, hein, donc celle de l'emprisonnement. Peut-être avant de voir la deuxième, on fait une pause musicale, si vous voulez bien.
Oui. C'est l'espérance folle qui nous console de tomber du nid et qui demain prépare pour nos guitares d'autres harmonies. S'élève l'espérance dans le silence soudain de la nuit, et les matins qui chantent déjà enchantent nos soirs d'aujourd'hui. Viens, c'est la fête en semaine, viens, je t'attends, tu le sais, plus rien ne nous sépare, viens. Viens, si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le lien avec les beaux jours qui viennent, reviennent. C'est l'espérance folle qui carambole les tombes du temps. Je vois dans chaque pierre cette lumière de nos cœurs battants. La mort, c'est une blague, la même vague nous baigne toujours. Et cet oiseau qui passe porte la trace d'étranges amours. Viens, c'est la fête en semaine, viens. Je t'attends, tu le sais, plus rien ne nous sépare. Viens. Viens, si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le lien avec les beaux jours qui viennent, reviennent. C'est l'espérance folle qui danse et vole au-dessus des toits, des maisons et des places, la terre est basse, je vole avec toi. T'es gagné d'avance, je recommence, je grimpe pieds nus. Au sommet des montagnes, mât de cocagne, des cieux inconnus.
Bien, chers auditeurs, nous reprenons notre émission Dieu est-il écolo, où nous sommes avec donc Délie Fraisse et Luc Olivier Bossé et moi Stéphane Chénery. Nous réfléchissons autour de la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 8. Nous avons vu donc et autour de cette phrase, la création tout entière gémit et souffre. Donc on a vu un certain nombre d'aspects. Et puis maintenant, nous allons peut-être voir ce qu'il est dit aussi par rapport à l'accouchement, hein, puisqu'il est dit la création donc entière gémit et souffre comme une femme qui accouche.
Et voilà. J'espère que les auditeurs ont eu la patience de nous écouter jusqu'à maintenant, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, on pourrait se dire, j'éteins ma radio parce qu'il n'y avait pas tellement d'espérance. Mais je pense que cette deuxième métaphore, il y avait Paul qui parle de l'enfermement, l'emprisonnement, hein, la création qui est soumise à des pouvoirs, des forces qui ne mènent à rien. Et puis, il y a cette deuxième métaphore où il dit que cette création souffre, mais comme une femme qui accouche. Et cette deuxième métaphore, je trouve qu'elle est vraiment porteuse d'un message tout à fait intéressant. Parce que ça veut dire quoi ? De nouveau, là, Paul, il nous invite à regarder et à interpréter. Parce que nous ne sommes pas simplement que des spectateurs passifs de notre actualité. Nous sommes toujours appelés à voir et à réfléchir comment nous interprétons tout ce que nous voyons autour de nous. Eh bien, Paul, lui, il regardait les souffrances, les gémissements, les tensions qu'il y avait autour de lui comme l'expression d'une création qui souffre et qui gémit parce qu'elle est comme travaillée de l'intérieur par une poussée de vie. Et cette poussée de vie, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va accoucher de tout cela. Et sa douleur, elle n'est pas due que à l'enfermement. Ce n'est pas une douleur qui est dans une impasse, mais c'est une douleur qui est aussi provoquée parce qu'il y a quelque chose qui cherche à naître, qui cherche à pointer le bout de son nez. Et donc, pour advenir, pour être là, elle doit forcer des fois le passage. Elle doit... Et donc, ça bouscule, ça travaille.
Il y a la vie.
Il y a de la vie.
Il y a de la vie.
Alors moi, personnellement, j'ai jamais vécu d'accouchement, hein, si ce n'est à côté. Donc, mais voilà, il y a cette tout d'un coup, ce saisissement et cette, comment dire, des fois, ces palpitations, ces tressaillements qu'on peut ressentir, qui peuvent être douloureux, mais aussi qui, parce qu'on peut les interpréter comme quelque chose qui va naître.
C'est intéressant parce que tout ça n'est pas vain, quoi. Toute cette souffrance et ces gémissements ne sont pas vains. Ils amènent à quelque chose qui est de l'ordre de la vie et c'est ça qui est intéressant. Si effectivement on s'en était arrêté là, il y aurait de quoi se désespérer. Je trouve que cette métaphore est tout à fait... porteuse d'optimisme et de d'encouragement à y aller, quoi, à foncer.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut tenir, pour être lucide en fait, et engagé dans notre actualité, il faut peut-être tenir ces deux métaphores. La question d'être lucide sur l'enfermement et que ce n'est pas la responsabilité d'un, on est tous partie prenante, donc être conscient de cela, et voilà. Et puis de se dire, il y a quelque chose qui... demande à naître. Alors, quand on les tient ensemble, ces deux expressions, vis-à-vis de ceux qui sont fatalistes et qui osent les épaules en disant de toute façon, qu'on peut faire,
tout
à quoi
est
ça
cuit, oui, voilà, bien sûr.
Eh bien, on peut répondre et on pourrait dire, mais regarde le monde qui t'entoure. C'est vrai qu'il est traversé par des forces contradictoires, mais ce monde, il n'est pas pourri. Il est ambigu. C'est pas la même chose, hein. Pourri, ça veut dire que de toute façon, on ne peut plus rien faire.
Il n'y a rien à tirer.
C'est dépassé, Non, il est ambigu. Ça veut dire que dans ce monde, il y a un mélange. Hein, au cœur de ce monde emprisonné par des forces qui ne mènent à rien, il y a une poussée. Il y a quelque chose qui demande à accoucher et qui demande à être accompagné pour que ce quelque chose puisse se déployer.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans l'image de l'accouchement, c'est que c'est un phénomène non prévisible et non maîtrisable par l'homme. C'est intéressant aussi, hein.
Oui.
Qui advient sans...
À moins
qu'il y ait
des césariennes.
Alors maintenant, oui, c'est plus tout à fait comme ça, mais...
Enfin, les césariennes, on peut très bien le programmer, mais c'est vrai qu'il y a un côté où on a le terme, on peut calculer et tout. Mais n'empêche que...
Mais c'est intéressant qu'il y ait des césariennes. Hein.
Ben heureusement.
Voilà, heureusement. Je veux dire que là aussi, on voit que nature et culture et sont bien complémentaires. On a à se réjouir de toutes ces avancées qui viennent nous soulager quand même.
Ah ben tout à fait. Hein. Non, voilà. Non, tout à fait. Mais oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui est de l'ordre naturel et qu'on ne peut pas complètement maîtriser, bien sûr. Pour des raisons sanitaires, il faut parfois justement mettre en place des procédés qui nous permettent de peut-être plus maîtriser les choses. Mais n'empêche que la femme qui accouche, là, la métaphore, c'est aussi pour dire qu'il y a une poussée qui
ne se maîtrise pas. Il y a une poussée.
On s'adapte. Hein, on va pas chercher systématiquement des césariennes ou on ne va pas chercher systématiquement à laisser les choses advenir. Là, on est toujours à accompagner le mouvement et par moment, il y a besoin d'intervenir, mais par moment, il n'y a pas besoin. Donc, on est dans une posture là où on ne pas maître de tout et on est au contraire au service de quelque chose qui se passe de plus grand que nous.
Moi, j'ai été troublée en venant En prenant le tram, à l'arrêt de tram, il y a une espèce de grand mur qui soutient donc le parking où j'étais garée. Et il y avait marqué, c'est tout à fait récent, « Le monde est fou, Dieu aide-nous !» Point d'exclamation. Et j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose qui était tout à fait, une affirmation qui était tout à fait en rapport avec ce que nous traitons aujourd'hui et qui avait à voir avec l'espérance, quoi. On est en train d'étudier là un texte biblique écrit par Paul aux Romains, Paul qui était un être qui s'était converti. Cette espérance, on ne l'a pas nommée jusqu'à présent, mais Paul l'a tirée de sa oui. foi, de sa foi en Dieu.
Oui.
Hein? Donc voilà, je trouve qu'il y a... Il y a des choses là qui...
Tu vois, cette expression qui rime en plus là, oui. « Le monde est fou, Dieu aide-nous », moi ce que j'entends aussi, c'est dans ce jeu là qui est en train de se passer, la partie est si complexe que tout seul, oui. J'arriverai pas.
Voilà.
Donc aide-nous, c'est-à-dire on ouvre l'espace pour oui. qu'il y ait d'autres personnes... Et là, la référence à Dieu, qui puisse amener quelque chose.
Mais qui implique aussi, parce que c'est de nous.
Oui, bien sûr.
On a à faire.
On est dans la partie.
On y est.
On est dans le match et ouais, tout, il n'y a pas ouais, de problème. Ouais. Mais c'est vrai qu'on va chercher, on demande de l'aide au-delà de nous-mêmes. Et quand il y a la métaphore de l'accouchement, c'est cette même dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes au centre, mais nous accompagnons un processus. Nous sommes avec, nous devons faire avec. Et donc, c'est aussi une façon de regarder ce qui se passe autour de nous. On ne peut plus faire comme si on était seul ou si on pouvait tout dominer, tout maîtriser. Non, il faut faire avec. Et aujourd'hui, il faut faire avec cette réalité. Et Dieu est de nous, c'est eh bien, dans cette démarche-là, on est aussi prêt à faire avec toi.
C'est d'ailleurs intéressant parce que tu nous avais dit que dans la traduction du grec, donc, il y a la création gémit et souffre, mais en fait, on peut rajouter avec. Hein, dans la traduction. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?
Oui, tout à fait. En fait, dans le texte grec de Romains 8, Paul, quand il écrit « La création gémit et souffre », il aurait pu se contenter d'utiliser des verbes simples. Or, là, eh bien, il y a la particule « sun », qui est en fait un préfixe, qui est rajouté pour « gémir avec » et « souffre avec ». Et au fond... On pourrait dire c'est une comment dire un artifice de langage, c'est un langage un peu plus élaboré mais je pense c'est très difficile à traduire en fait mais je pense que ce mot qui est rajouté le sun, c'est-à-dire avec, il peut porter du sens. En tout cas, moi j'y ai perçu ça, c'est-à-dire que le gémissement, il est pas solitaire,
Dieu y est impliqué.
C'est ça
que tu veux dire.
Alors, on pourrait voir à plusieurs niveaux.
Oui.
C'est, de nouveau, là, ce n'est pas précisé que Dieu est impliqué, mais on pourrait comprendre que la création, elle souffre avec. C'est-à-dire qu'elle souffre avec ceux qui souffrent dans cette création, et qu'elle souffre aussi avec le projet du Créateur, qui voit qu'elle souffre. Enfin, et on sent que dans ce « avec », c'est, puisqu'il est indéterminé aussi, eh bien, ce n'est pas pour définir un champ de ceux qui souffrent, de ceux qui ne souffrent pas, mais c'est d'être dans une dynamique où on n'est pas seul. Y a une question de solidarité. Et puis, de dire qu'elle elle souffre avec les douleurs de l'accouchement. Donc, il y a la souffrance, okay. Mais il y a aussi cette idée d'accouchement et donc accoucher avec. Et là aussi, l'accouchement... Il n'est pas solitaire. Il est porté par différentes personnes où là où il y a des accouchements qui adviennent, eh bien, il y a d'autres qui s'allient. Et qu'on pourrait voir justement dans la foi chrétienne le fait qu'à Noël, quand on parle de Jésus le Verbe s'est fait chair, Jésus qui entre dans notre réalité pour vivre pleinement cette réalité jusqu'au bout, c'est qu'il vit avec notre situation d'enfermement pour, au cœur de cet enfermement, apporter de l'esprit, apporter de l'ouverture, apporter de la liberté, apporter de la grâce, et de ce fait, faire advenir quelque chose, accoucher quelque chose qui ne demande qu'à naître. Et si c'était la responsabilité que d'une personne, eh bien, peut-être que ce serait une responsabilité trop lourde et qui serait complètement écrasante, éteinte, et que ce qui devrait enfanter ne pourrait pas advenir. Or là, ce « avec » montre que... hop, y a cette naissance qui peut advenir. Et quand à Noël, nous fêtons la naissance d'un enfant, cet enfant, s'il n'avait tenu qu'à lui, il n'aurait pas survécu. Parce que tout le récit de Noël, qu'est-ce qu'il raconte ? Eh bien, il raconte qu'à un moment donné, quand les pouvoirs en place, justement, les systèmes qui enferment, qui emprisonnent et qui massacrent les nouveau-nés, eh bien, heureusement qu'il y a eu Joseph, qu'il y a eu... Et hop, l'enfant a pu partir et être préservé pour aller en Égypte. Donc, on voit que le avec, il a toute une force pour rappeler que... à la fois la souffrance n'est pas solitaire et à la fois l'accouchement est le fruit d'une dynamique de solidarité.
Ce qui est intéressant dans ce texte, quand nous l'avons étudié et que nous en avons parlé aussi, c'est que tu nous as défini comme vraiment la théologie paulinienne, c'est la question de la justice. Et ça m'a beaucoup éclairée d'en discuter dans nos échanges, parce que la justice, on peut, quand je dis justice, c'est coupable ou non coupable, c'est un peu le raccourci que je fais quand je pense à justice, je pense tribunal, je pense justice des hommes, je pense coupable ou non coupable, alors que ce que tu nous as amené à comprendre, c'est que le sens du mot justice dans la théologie paulinienne était beaucoup plus nuancé que celui-ci. Et que peut-être, au lieu de justice, il faudrait parler de justesse dans nos relations, dans notre vie. Enfin, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose sur
C'est vrai que ça fait un petit décrochage par rapport à notre passage de Romains 8, parce qu'il n'y a pas nécessairement là, dans ce passage-là, la notion de justification. Oui. Mais dans cette idée d'accouchement, la justification par la foi, chez Paul, c'est au fond de rendre la personne, de lui donner une nouvelle compréhension d'elle-même, une nouvelle compréhension du monde qui l'entoure, une nouvelle compréhension de Dieu, pour pouvoir ensuite tisser des relations ajustées avec le milieu. Mmh. Et qu'au fond, quand tu parles de justesse, c'est ça. C'est-à-dire que Paul, il parle de cette expérience où tout d'un coup, il a été saisi et intimement convaincu de la grâce, c'est-à-dire qu'il est aimé, quoi qu'il fasse, rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Alors que vous connaissez l'histoire de Paul, il était persécuteur et tout ce qu'on veut. Et tout d'un coup, il prend conscience qu'il est intimement aimé de Dieu, malgré tout ce qu'il a fait. Et cette compréhension de lui, cette compréhension nouvelle de Dieu, lui permet de regarder autour de lui le monde et les autres d'une nouvelle façon. Et donc, il s'ajuste à ça. Et quand il dit « la création est enfermée », eh bien, avoir de la justesse, c'est justement pas trop survaloriser ça, parce que si on survalorise trop ça, on arrive dans un langage défaitiste, tout ça. Et puis, quand il parle des douleurs de l'accouchement, donc ça ouvre à une espérance. Donc, être ajusté, c'est aussi de dire ben, « là, il y a quelque chose qui cherche à naître ». Et pour accompagner cette naissance, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes aussi accompagnés parce que le Dieu qui, pour Paul, le Dieu de Jésus-Christ, est celui qui entre dans nos réalités, qui s'y incarne et là insuffle au cœur de ces réalités-là une capacité de lumière, de regarder les choses sous un autre angle. Donc, on sent que là, il y a aussi cet enjeu-là. Quand il donne ces deux métaphores, peut-être que c'est ce qui nous permet de regarder et d'interpréter le monde qui nous entoure avec, non pas une justesse au sens que c'est parfait, c'est notre interprétation qui est la meilleure, mais ajuster à la complexité de la situation.
Et cette position juste aussi, elle est vis-à-vis de la création, de la nature. Il s'agit justement d'avoir une position juste équilibrée entre une vision de domination ou au contraire, comme on en avait parlé, mettre la nature sur comme une divinité que l'on...
Oui, c'est ça. La nature, là, Paul, il ne parle pas de nature, il parle de création. C'est-à-dire que ça reste quelque chose de créé, donc qui ne mérite pas adoration, comme le susciterait ou le demanderait Dieu. Dieu est l'absolu qui, devant lequel qui demande d'adoration, mais tout le reste n'a pas à être survalorisé au point de l'adorer. Donc la création est reconnue comme telle, donc c'est, en ce sens-là, c'est vrai que c'est ajusté, mais se reconnaître comme telle, ce n'est pas un regard dépréciatif. C'est aussi se dire, c'est dans cette création, par cette création, je peux rencontrer les autres, je peux rencontrer Dieu, et donc tout ça est à être respecté, accueilli, préservé, pour que l'histoire continue, pour que les rencontres puissent continuer de se faire. Donc le côté juste, je pense qu'il se joue là.
Qu'en tirer comme enseignement? Bon, notre émission s'appelle « Dieu est-il écolo ?» Nous réfléchissons beaucoup sur ces questions-là. Notre Église est engagée dans le processus « Église verte ». Et donc, comment accoucher, si je puis dire, d'une relation juste, à la fois individuelle, mais aussi avec les autres et solidairement, avec la nature? Comment, quels enseignements en tirer? Comment...
Alors, on a parlé d'espérance aujourd'hui.
Oui.
Eh bien, par rapport à l'espérance, ce que j'entends, moi, dans ce texte, c'est de dire l'espérance, c'est ce qui nous permet de tisser une relation juste par rapport à notre quotidien, sans être défaitiste ou sans être sur-responsabilisé de manière écrasante. L'espérance, c'est de se dire, ok, y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à accompagner, mais simplement, c'est que j'ai aussi ma place de créature là-dedans. Je ne suis pas le maître de tout le processus. Mmh. Et au fond, de reconnaître cela, ce n'est pas de se démobiliser, mais c'est de trouver cette juste place pour ne pas désespérer devant les échecs, devant les ralentissements, devant les complications. Mmh. Et de fait, de se dire que ce qui nous permet de sortir de cette souffrance et de ces gémissements et d'accéder à cette liberté des enfants de Dieu, dont parle Paul aussi, eh bien, c'est donné. C'est que le Créateur veille à ce que ça puisse advenir et donc de participer à ça. Donc là, par rapport à aujourd'hui, je trouve que vis-à-vis de notre engagement au niveau de ces défis écologiques, l'espérance, j'entends que là, il y a quelque chose qui peut nous alimenter dans nos différentes pratiques.
C'est à la fois accepter la grâce et en faire quelque chose, si je peux m'exprimer de façon un peu triviale, c'est-à-dire à partir de cette espérance-là, y aller, quoi, foncer, et pas seul. En solidarité avec les autres pour effectivement trouver une relation juste.
Oui. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas rien faire. Ouais. En fait, c'est pas une espérance qui nous démobilise. Parce que de toute façon, dans notre quotidien, on ne fait jamais rien. On fait toujours quelque chose. Simplement, on peut faire quelque chose qui nous enferme ou on peut participer à un mouvement qui accouche. Et à quel que soit le niveau où nous nous trouvons, je pense que c'est la question qui nous est posée. Là, Paul, il n'est pas en train de dire « t'as rien à faire, tout va se faire sans toi », mais c'est plutôt de dire « tu es embarqué dans une aventure où au fond, des fois, tu te sens enfermé, soumis à des contraintes et tout, qui sont compliquées. » Et là, on peut après voir plein de situations qui nous rappellent cela.
Oui.
Eh bien, quand tu es dans cette réalité-là, et si tu laisser interpeller par l'évangile qui dit, eh bien, là, avec d'autres, des personnes vivent cela avec toi parce que y a un accouchement là qui est en train de se vivre dans tout ça. Et donc, est-ce que tu veux, toi, participer aussi à ce mouvement-là?
Très bien, merci. Je pense qu'on va rester là en guise de conclusion. Merci Luc Olivier, merci Délie.
Merci Stéphane.
Et au mois prochain pour une autre émission Dieu est-il écolo.
C'est ça, et si les auditeurs ont des questions qu'ils auraient envie que nous abordions, nous pourrions très bien les reprendre pour nos prochaines émissions.
Merci, au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Dieu est-il écolo, une émission produite par Radio FM+.